Vous reconnaissez sans doute les bruits de la ville derrière moi, cette cacophonie, cet ensemble de ronronnements non accompagnés d'oreilles pointues et de petites patounes, ce bourdonnement qui suit toutes nos ouvrières et nos ouvriers dans tous leurs déplacements. Alors nous sommes loin d'une danse ou d'une valse d'abeilles, mais vous entendrez au rythme de mes pas que je suis un trajet bien précis. Laissez-moi vous faire découvrir la musique classique. Beaucoup d'entre nous n'y sont pas habitués et le ronron des moteurs leur est bien plus significatif. Je vous emmène à deux représentations, une au métro Cordelier et une à Grange Blanche, deux destinations que quelques métros et tramways séparent, mais pas de panique. Si l'on peut faire cette distance ensemble, on peut apprendre à déchiffrer l'image d'un lac paisible dans un mouvement d'orchestre aussi bien que celle du signe « Dépêche-toi » qui clignote avec le son de la fermeture des portes du tramway.
Dans les coulisses de l'Orchestre Symphonique des Grandes Écoles de Lyon, une émission de Mélissa Buton.
Nous rencontrons les deux chefs d'orchestre des musiciens des Grandes Écoles de Lyon, ainsi que ceux du groupe Allegria, le soir de la Fête des Lumières. Un moment privilégié pour tous ceux qui veulent découvrir et en apprendre plus sur le monde de l'orchestre. Une interview ponctuée de morceaux enregistrés au concert du sanctuaire de Sainte-Bonaventure à Cordelier, mais également à de la représentation qui a eu lieu à Grange Blanche dans un lieu plus sec. Vous pourrez ainsi percevoir l'acoustique si spéciale des deux lieux. Je vous propose également d'écouter des morceaux de répétition de nos musiciens. Léo, vous êtes saxophoniste, mais également directeur depuis 2012 de l'orchestre de l'ENS de Lyon.
Oui, c'est ça.
C'est bien ça.
Depuis 2012.
D'accord. Et vous, Sarah, donc vous êtes altiste chef d'orchestre et vous dirigez également l'orchestre Allegria.
C'est ça.
Et vous vous occupez également de la direction de l'orchestre de l'ENS pour cette année. Vous collaborez tous les deux.
Je collabore, voilà, c'est ça.
Le concert de ce soir ne regroupe pas que des étudiants des grandes écoles de Lyon, si j'ai bien compris. Vous avez d'autres musiciens également.
C'est ça, c'est-à-dire que l'idée de ce concert, c'était de doubler le partenariat entre Léo et moi, en tant que chef, en faisant un partenariat sur les deux orchestres, c'est-à-dire l'orchestre de l'ENS, et l'orchestre des grandes écoles, puisque c'est pas seulement l'ENS, des étudiants qui sont aussi, principalement de l'ENS, qui est basé à l'ENS, mais il y a aussi des étudiants d'autres grandes écoles de Lyon, et puis de faire une partie de programme en commun avec l'orchestre Allegria parce que ça permet d'augmenter les effectifs et de donner l'occasion à des amateurs de toucher le plaisir que nous on connaît du grand symphonique, voilà, enfin que moi en tout cas en tant qu'altiste j'ai pratiqué souvent. Et donc d'avoir des effectifs qui sont beaucoup plus importants puisque doublés notamment au niveau des cordes. Et puis parce qu'avec Léo, on a fait des études en commun et qu'on aime bien travailler ensemble. Et donc on s'est dit qu'on allait continuer. Voilà.
Pour les répétitions, du coup, comment est-ce que ça se passe? Vous réunissez tout le temps, tous les deux, avec vos musiciens?
C'est un peu différent, en fait, entre les deux orchestres. L'orchestre des grandes écoles se réunit de manière hebdomadaire, toutes les semaines, pendant 2 heures le lundi soir. Alors que Sarah avec son orchestre, toutes les deux semaines.
On a deux vendredis par mois et un dimanche par mois, ou enfin un dimanche complet. Mais c'est un orchestre, l'Allegria, c'est un orchestre qui est fondé autour de la convivialité déjà, beaucoup. Donc on tient beaucoup à notre dimanche parce que c'est un moment où chacun amène à manger, on fait un repas ensemble, etc. Et c'est un orchestre d'adultes. Donc la moyenne d'âge est bien plus élevée, avec aussi des centres d'intérêt et des fonctionnements différents. Cette rencontre générationnelle d'ailleurs est assez tonique.
C'était aussi l'occasion justement de faire un concert où on regroupait deux orchestres différents, deux manières aussi de travailler différents, deux chefs différents, aussi des générations différentes. Parce que vous avez d'un côté des étudiants qui sont pleins d'études, et puis de l'autre
des adultes et retraités.
Voilà,
donc c'est vraiment
une rencontre. C'est ce qui est à la base d'ailleurs des deux orchestres qui est important.
Je vous propose de nous faire découvrir la programmation que vous avez choisie. Alors vous allez reprendre donc des extraits de symphonie. Est-ce que vous pourriez nous parler des premiers mouvements que vous allez jouer?
Et ben, par exemple, pour ce programme-là, j'avais choisi avec Sarah des pièces assez contrastées, puisqu'on avait déjà joué le Elgar l'année dernière.
Avec l'orchestre Alegria.
C'est une pièce qui se prête très bien à ce genre d'effectif, puisqu'il y a beaucoup d'instruments. Vous avez des trombones, des cors, et les vents sont très nombreux. Et de l'autre côté, une formation un peu plus réduite pour le Sibelius, par exemple, la première pièce, où vous avez surtout les cordes qui sont très présentes, et puis des solos de bois qui viennent donner cette couleur très particulière à ce compositeur norvégien. C'était l'occasion de faire découvrir aux musiciens des esthétiques différentes. Le Mio, complètement différent. Darius Milhaud, avec une pièce teintée un peu du Brésil et des couleurs sud-américaines.
Dans notre travail avec notre orchestre, on essaye de toucher des répertoires qui soient contrastés, qui soient parfois des choses qui sont très très connues et d'autres qui ne le sont pas du tout.
Le Péléas et Mélisande de Sibelius, donc le public connaît peut-être un petit peu moins.
Il y a 9 sur 10, pourquoi les gens ne connaissent pas? Très clairement.
Alors, qu'est-ce qu'on est censé voir comme image? Qu'est-ce qu'on est censé ressentir alors ce soir pendant le mouvement de Sibelius?
Alors, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on est censé ressentir, je vais vous dire, chacun a son univers intérieur. La musique, pour moi, elle appartient au compositeur tant qu'elle est dans sa tête. À partir du moment où elle est imprimée, elle appartient au musicien. Et à partir du moment où le musicien la joue, elle appartient à chaque personne qui l'écoute. De la même façon que on lit ce qu'on reçoit et on trouve ce qu'on apporte dans un tableau. Et il en va exactement de la même chose pour la musique. Évidemment, Péléas et Mélisande, il y a une histoire, il y a un texte, mais après, on peut s'attacher au texte et essayer de trouver le texte dans la musique, ou alors c'est ouvrir son univers onirique et fantasmatique. Tout est possible.
C'est simplement aller à la musique aussi.
Oui, voilà.
Par rapport à ce que tu disais, oui, c'est moi ce que je pensais, par exemple, c'est certaines personnes qui écoutent ce Péléas et Mélisande, qui en ont déjà entendu parler, vont peut-être après le concert aller comparer avec celui de Forêt, ou même redécouvrir celui de Debussy, et puis comparer leurs sensations aussi, pour ceux qui connaissent déjà, c'est un peu l'idée aussi, quoi.
Ouais.
Même thématique, même texte, mais par contre musique différente, interprétation différente.
Ouais.
Couleurs différentes, pays différents, enfin tout est à redécouvrir.
Plus du travail, alors de l'orchestre lui-même et puis votre travail également en tant que chef d'orchestre, en tant que directeur artistique, on pourrait dire, de cette formation. Donc on vient de parler de la programmation de cette année, comment elle est née. Parlez-nous un peu des répétitions, des difficultés, mais aussi des découvertes que vous avez faites pendant les répétitions de cette année.
En ce qui me concerne avec l'Orchestre des Grandes Écoles, il y a déjà beaucoup de plaisir à travailler avec des amateurs qui sont de niveaux différents et qui viennent pour leur plus grand plaisir, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire à côté aussi, que ce soit à l'ENS ou dans les autres grandes écoles. Et ils viennent vraiment pour passer, je pense, une soirée pour jouer de leur instrument, jouer ensemble et puis progresser sur un programme. Et c'est là où parfois il y a des difficultés et où on est là pour ça, pour faire avancer les choses, pour donner des conseils, pour ouvrir les oreilles aussi. à des musiciens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de jouer en orchestre. J'en ai eu beaucoup qui commençaient pour la première fois. Et ça, par exemple, c'est toujours émouvant, puisque c'est la découverte de l'orchestre, et on est tous passés par là. Donc ça me touche beaucoup. Ensuite, il faut aussi réussir à gérer avec les horaires, parce que du coup, ils ont beaucoup de cours à côté, beaucoup d'impératifs, et c'est pas tout le temps évident aussi. Mais on trouve toujours une solution, et il y a toujours tout le monde au concert.
Alors, on parle beaucoup donc de l'oreille, mais pendant les répétitions, j'ai entendu beaucoup de regarder, fixer plus les autres, fixer les mouvements. Alors, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que quand on est dans un orchestre, on doit plus prêter attention aux autres joueurs avec Louis? Ou comment est-ce qu'on utilise la vue? Est-ce que la vue est plus importante pour qu'il y ait une cohésion au sein du groupe?
Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses de ce point de vue-là. Moi, j'ai tendance à penser, c'est une théorie toute personnelle, qui dit que l'orchestre, c'est l'instrument, et l'instrumentiste, c'est le chef d'orchestre. Alors, évidemment, c'est un instrument qui est vivant, qui est multiple, et donc qui ne réagit pas avec la précision de notre instrument matériau, je dirais. Mais là, par exemple, on a beaucoup, l'un et l'autre, insisté sur aujourd'hui, dans cette répétition, sur le fait qu'il faut regarder, parce qu'on est dans une acoustique qui tourne énormément. C'est-à-dire que quand on lance un son, il y a beaucoup d'écho, ça reste très longtemps. Le corniste a son pavillon qui va derrière, donc le son résonne au fond de l'église. L'oboïste a son son qui va devant, donc le son va taper de l'autre côté de l'église et va parcourir une dizaine de mètres supplémentaires dans l'autre sens. Enfin, voilà. Donc, dans une acoustique comme ici, dans une grande église, l'information sonore entendue par chaque musicien est inexacte. Et la seule qui vaille, et la disposition de l'orchestre est ainsi faite, que la seule qui vaille est celle du chef, puisqu'il est celui qui est géographiquement placé à l'endroit où normalement les sons se rencontrent. Normalement. Voilà. Le souci est double dans une église, c'est qu'on fait une répétition dans une église vide, un concert dans une église pleine. Ouais. Et l'acoustique, nous on le sait, eux ils le savent théoriquement, mais à chaque fois ils sont déroutés parce qu'ils n'ont pas cette expérience. L'acoustique va être tout à l'heure à 17h complètement différente de celle de la répétition, qui elle-même était complètement différente de celle qu'ils ont l'habitude d'avoir dans la salle de répétition habituelle. Et on répète souvent dans des salles qui sont très sèches, donc le son fait un peu poc. Et ici, ça fait bouh. Donc, c'est la différence entre... Et encore, c'est quoi? Donc, voilà. L'idée, c'est que la seule information qui soit fiable, c'est celle de l'œil. C'est celle que donne le chef. Parce qu'on ne peut se fonder que sur une paire d'oreilles. On ne peut pas utiliser les paires d'oreilles de tout le monde. Cela dit... chaque musicien doit avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter la qualité de ce qu'il fait lui, et de ce qu'il fait lui, notamment chez les cordes, par rapport à son voisin qui joue la même chose, ou chez les vents, par rapport à son voisin qui joue une deuxième voix, quelque chose comme ça, de travailler l'intonation, ce qu'on appelle l'intonation, c'est-à-dire la justesse, la hauteur des notes. Il y a plein, toutes sortes de paramètres qui relèvent de la pratique instrumentale, et qui, de toute façon... on peut pas jouer avec les oreilles fermées, on est d'accord.
Ouais, bien sûr.
Mais voilà, la cohésion dans des acoustiques un peu troublantes comme ça est faite par le chef. Et puis en plus, de toute façon, les intentions musicales, les directions, les respirations, voilà, tout est coordonné par le chef d'orchestre, c'est un peu ça qui sert. Pas juste à donner, s'il servait que à battre la mesure et à donner la vitesse, on mettrait un métronome géant et puis on irait boire du café ou autre chose.
Et c'est ça qu'on apprend beaucoup en fait, voilà. Dans l'orchestre. Savoir ça, en même temps être sûr de savoir ce qu'on joue, d'avoir sa propre écoute par rapport à son voisin, et en même temps de pouvoir l'adapter directement avec ce que le chef propose.
En temps réel.
En temps réel. Donc c'est à la fois une exigence personnelle et en même temps collective.
Alors, les mouvements du chef d'orchestre, c'est toujours quelque chose de très impressionnant pour les spectateurs, pour les gens qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a une sorte de codification ou ça reste très personnel à chaque chef d'orchestre?
Les deux, mon capitaine.
Ça dépend. Une sorte de codification très personnelle.
Il y a un code internationalement reconnu, admis, qui est la façon de battre la mesure, qui est faite avec le bras droit, sauf pour les chefs gauchers qui ne... qui ne veulent pas diriger dans le sens. Donc la main qui tient la baguette, la mesure, voilà, il y a le premier temps, c'est par du haut et va vers le bas. Le dernier temps de la mesure part du bas ou du côté et retourne vers le haut. Et puis après, c'est organisé dans l'espace en fonction si c'est une mesure à deux temps, à trois temps, à quatre, cinq, six, sept, douze, enfin bon, voilà. Et puis la main gauche est la main de l'expression. Elle peut battre en parallèle pour scander parfois quand il y a besoin d'un peu de précision ou une volonté particulière du chef, quelque chose un peu plus carré. Et puis voilà, c'est la main de l'expression et c'est là que chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il a. Et puis il y a tout ce dont on ne parle pas, donc il y a le visage. Et il y a tout le langage corporel, parce qu'on fait, nous sommes chefs d'orchestre, notre propre instrument aussi. Et donc, de même que les chanteurs, les danseurs, les comédiens, le langage corporel, il commence au bout des chaussures et va jusqu'au bout des cheveux. Et on peut pas le nier. On travaille beaucoup pour qu'il n'y ait pas d'informations parasites. Mais c'est voilà. Donc c'est codé, mais réinterprété en fonction de chacun.
Un code qui est forcément chaque fois différent, puisque c'est chaque fois un chef différent, chaque fois une personnalité différente, chaque fois une expression différente, chaque fois un contact différent, tout est différent.
C'est pour ça qu'on travaille ensemble en fait avec Léo aussi, c'est pour ça qu'on se permet de mettre cet orchestre en situation un peu étrange et parfois inconfortable, mais
parfois difficile
d'avoir deux chefs, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la même gestuelle en face. Mais il se trouve qu'on a effectivement été en cours ensemble et on s'est très vite aperçu qu'il y avait une communauté d'expression, je dirais, parce qu'on avait le même prof, parce qu'on a, je pense, des sensibilités qui se sont rencontrées. Enfin, je veux dire, quand on s'est rencontrés, on a eu la sensation un peu de se connaître depuis, je ne sais pas, un nombre d'années, c'est assez étonnant. C'était drôle, tout le monde nous disait « Ah, ça fait longtemps que vous connaissez ?»« Ouais, trois semaines, bon d'accord. »
Ça fait longtemps que vous dirigez ensemble,
Oui, deux jours. Et puis, comme on a été beaucoup ensemble, on s'est vu diriger l'un l'autre, et moi, je suis un peu une éponge. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me voir, ce que je te disais en répétition, de me voir répéter, et puis de me voir faire un geste et me dire « Mais... » de sentir « ce geste ne m'appartient pas ». Et après, « Ah mais oui, mais c'est Léo qui fait ça !» Et ce qui fait que, même si tout est très individuel, très personnel, très intime même, je dirais, on est au moins sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de contradiction.
En parlant du visuel, alors la tenue des musiciens et du chef d'orchestre, donc le code en général, c'est de porter du noir. Alors, quelle est la raison, justement, de cette codification? Pourquoi est-ce que les musiciens doivent tous s'habiller de manière sobre, en noir? Est-ce que c'est pour mettre en avant?
Justement, j'ai vu un concert où, avec des musiciens habillés tout en blanc et pieds nus sur scène.
Oui, moi j'ai vu un chef d'orchestre, c'était la flûte enchantée, il l'avait fait passer à Lyon, c'était une mise en scène plutôt contemporaine, et le chef d'orchestre était bodybuildé et avait un t-shirt moulant vodka.
Oui, mais par exemple, un chef d'orchestre avec un t-shirt blanc, ça n'existe pas,
c'est à mon avis.
Parce que la baguette étant blanche, on ne voit plus la baguette.
D'accord.
Donc oui. Déjà, problème technique. Il y a un problème technique de base. Pourquoi est-ce qu'on est en noir ou même en pingouin, c'est-à-dire en noir et blanc avec le costard, ne pas ou cravate, etc. C'est parce que nous faisons une pratique artistique qui est très fière de ses ancrages passéistes, dirais-je. Passé et passéiste pour certains. Et que tout ça remonte époques, des temps bien plus anciens où on s'habillait. Les dames mettaient des robes de soirée, les messieurs des copies pour aller à l'opéra en public. Et donc la moindre des choses, c'est que les musiciens aussi soient appuyés.
Voilà. C'est une sorte de respect aussi. Pour certains, quand c'est trop, c'est un peu passéiste.
Ouais.
Et puis pour d'autres, c'est le minimum vital pour quelqu'un qui fait de la scène.
Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on donne à entendre, mais à partir du moment où on monte sur scène, il y a aussi ce qu'on donne à voir. Ça permet une certaine homogénéité. C'est vrai que si c'est homogène dans l'orchestre, ça évite que l'œil de l'auditeur soit attiré à un endroit ou à un autre de l'orchestre, oui. De façon inconsidérée, et ça permet de libérer les yeux de l'auditoire et de pour ouvrir les oreilles, je pense aussi, quelque chose de cet ordre-là. Mais après, tout est possible. Nous, avec Allegria, la tenue, c'est noir ou noir et rouge. Rouge en haut. Par contre, noir en bas, toujours.
Ouais. Sinon, on voit vite des musiciens qui arrivent avec des chaussures rouges.
Et ça pose un problème parce qu'ils battent des pieds et pas toujours à un moment où il faudrait. Et ça gêne beaucoup les chefs. Donc, le noir en bas, toujours. Et voilà, et on a un noir et rouge qui est plus qui est festif et qui nous ressemble aussi, voilà. Mais c'est des codes. Ouais.
Il y aura au minimum 2-3 concerts à venir.
Vous restez toujours dans la région Rhône-Alpes ou vous bougez en général quand vous travaillez ensemble?
Oui, bah, quand on travaille ensemble, on se retrouve à Lyon quand on travaille sur par rapport à cet orchestre-là. Et quand on travaille sur d'autres projets, ça peut être absolument partout.
Ouais. Et eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Bonne chance pour ce soir.
Merci bien.
Merci.
Un, et...